Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit Public à un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, la journaliste Christine Ockrent, le professeur de relations internationales Bertrand Badie, l'essayiste Mathieu Laine et l'économiste Daniel Cohen. Au sommaire de ce dimanche 7 avril, grand débat, le président a-t-il compris les Français ? Et Brexit, un système britannique à bout de souffle. Une quinzaine de débats, la plupart en région, pas loin de 100 heures d'échanges avec les Français, plus de 2000 élus rencontrés, pour l'essentiel des maires. Telles étaient ces statistiques que l'Élysée fournissait volontiers à qui voulait chiffrer l'implication personnelle du président dans cette opération grand débat qu'il avait lancée le 10 décembre dernier, au plus fort de la crise des Gilets jaunes. Un tour de France présidentiel en 80 jours, débuté dans l'heure, conclu en Corse jeudi. 80 jours au cours desquels Emmanuel Macron s'était montré apparemment inépuisable et volontairement au contact, à portée de baffe, comme il le reconnaissait lui-même. Le président avait, paraît-il, noirci des pages et des pages de carnet. Restait maintenant à savoir si cet exercice de consultation démocratique totalement inédit avait permis de réparer un lien très dégradé entre les Français et le président, et au-delà, entre les Français et là, le politique en général. Certains élus se voulaient positifs, à l'image du maire socialiste de Bourg-en-Bresse qui avait confié cette semaine au Huffington Post que ce grand débat aurait au moins eu la vertu de renouer le lien entre l'exécutif et les élus locaux, ajoutant « J'ai eu plus de relations avec des ministres en 4 mois que lors des 18 premiers mois ». Réparer le lien avec les maires, première étape pour réparer le lien avec les Français. Refaire nation après le grand débat. Dans cette France si bien décrite par Jérôme Fourquet dans son dernier livre, qui démontrait, cartes, tableaux et graphiques à l'appui, que la nation française une et indivisible, structurée par un référentiel culturel commun, s'était morcelée ces dernières années en un archipel d'îles s'ignorant les unes les autres. Dans cette France-là, fragmentée, le grand débat avait certes fait baisser la température, avait permis au président de reprendre la main et à des centaines de milliers de Français de s'exprimer. L'impopularité présidentielle semblait endiguée, mais la colère et parfois même la haine des Gilets jaunes, le discours populiste anti-élite, les fractures françaises, ces mots-là, eux, étaient-ils au fond guérissables ?
Vous savez, si vous passez de rond-point en rond-point, c'est une obsession française alors à ce moment-là, parce que le grand fédérateur du mouvement... C'est Emmanuel Macron. À chaque rond-point, vous avez Macron démission.
Je vois un risque du débat, c'est l'individualisme. C'est de dire la réponse au débat, ça doit être 66 millions de réponses. Et ne bougez pas, j'ai mon chéquier dans la poche et je vais vous faire une réponse à chacun, ce sera bien. Et vous trouverez toujours des gens qui diront « Moi, on n'a pas répondu à mon sujet dans le grand débat. » Peut-être. Parce qu'à chaque instant, il ne faut jamais oublier que la réponse que l'État peut apporter, que les élus, que toutes celles et ceux qui constituent l'action publique peuvent apporter, c'est une réponse... qui correspond à un projet national et à un sens du collectif, à une capacité de nous engager.
Voilà, à propos d'Emmanuel Macron devant les maires de Bretagne cette semaine et la précédée, François Ruffin, qui était cette semaine sur Europe 1. Mathieu Laine, on est ravis de vous retrouver dans l'Esprit Public. Après le grand débat, rien ne sera comme avant, dit Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement ce matin dans Le Parisien. Quelle promesse dangereuse!
Oh bah tout, c'est pas une promesse, c'est une exigence. Cet instant a été critique, tout le monde l'a bien perçu. Dans ce mouvement des Gilets jaunes qui a eu 3 phases que beaucoup ont bien identifiées, un premier mouvement qui était finalement une colère de jacquerie automobiliste contre l'impôt et contre la norme, j'y reviendrai. Qui faisait même penser quelque part au mouvement des pigeons, mais tendu à plein d'autres catégories de personnes et de Français.
Rappelez ce qu'était ce mouvement des pigeons.
Ce mouvement des pigeons qui se portait en colère au moment de François Hollande contre l'augmentation de la fiscalité et qui, pour le coup, mettait des entrepreneurs au banc, alors même que ce sont aussi eux, et essentiellement eux d'ailleurs, qui créent l'emploi privé. Et donc il y a derrière tout cela... un fond de colère et de rejet d'un État trop important par la fiscalité excessive, en tout cas pour ceux qui la payent, et par la norme. Et là, pour le coup, les 80 km/h étaient une sorte de symbole. Et c'est pour ça que c'est parti chez les automobilistes. Les 80 km/h et la taxe sur le diesel avaient une espèce de synthèse de ces deux types de colère et qu'on a bien perçu. Hélas, j'allais dire hélas, parce que là, pour le coup, on pouvait comprendre ce mouvement de colère. Mais hélas, il y a... comme souvent en France, mais en réalité en Occident, c'est un mouvement. Nous assistons à la déclinaison française d'un mouvement occidental, mais il y a cette tentation française de toujours tout ramener à une vision marxiste du monde et qui veut que on a un problème, en réalité, trouvons une solution. La solution, ce sont ce qu'on appelle les riches, qui ne sont pas toujours si riches d'ailleurs, mais et allons taxer pour prendre l'argent et le redistribuer. Voilà le deuxième mouvement des Gilets jaunes, voilà ce que c'est devenu. Et vous avez à cette époque-là, jusqu'à des ministres, jusqu'à même le Premier ministre, qui a fini par considérer lui-même qu'il pouvait être séduit par l'idée de créer une cinquième tranche de l'impôt sur le revenu pour ceux qui étaient qualifiés comme étant les plus riches. Et puis vous avez une troisième phase qui est venue s'ajouter et qui là, pour le coup, a mêlé la vieille soupe, la mauvaise soupe, dont finalement ce qui est arrivé à Alain Finkielkraut, qui était favorable aux Gilets jaunes et qui a subi la violence antisémite, en a été finalement le symbole qui s'est ajouté évidemment à la violence, à la destruction, au rejet des valeurs fondamentales, jusqu'au droit de propriété, à la liberté de circuler, à la liberté de commercer. Et donc ce mouvement général appelait nécessairement d'une part une prise de parole, parce que la parole est curative, une prise d'écoute avant même d'être une prise de parole. Et effectivement, le président de la République est quelqu'un qui écoute, qui prend des notes, qui retient, qui a une mémoire assez impressionnante. Mais l'idée n'est pas non plus de faire la synthèse des propositions de chacun pour en tirer une stratégie qui serait une stratégie médiane pour, j'allais dire, presque un peu trop le en même temps, qui plairait un peu à tout le monde, parce que à force de vouloir faire des additions en faisant du en même temps et en plaisant à tout le monde, on finit par faire des soustractions, par plaire à de moins en moins de gens, par créer des frustrations maximales et par faire donner la possibilité ensuite aux extrêmes de l'emporter. Et donc aujourd'hui, bien sûr que ça doit être une prise de décision forte, différente. Alors en quoi, peut-être je vais pas monopoliser la parole, mais je vous le dirai un peu plus tard, mais ce que j'essaie de porter n'est pas forcément toujours ce que certains autour de lui lui souffle à l'oreille.
Alors vous avez en effet formulé des propositions dans un texte publié dans le Figaro cette semaine, on y reviendra dans un instant, mais ce matin le ministre de l'économie Gérald Darmanin confirme dans le journal du dimanche une réduction de la pression fiscale, avec peut-être une réduction des deux premières tranches de l'impôt sur le revenu, Daniel Cohen, ce qui voudrait dire que cette crise des Gilets jaunes, elle a d'abord été avant tout une crise de l'impôt.
Elle est d'abord une crise du pouvoir d'achat. C'est les fins de mois difficiles, c'est la fin du monde contre les fins de mois, c'est-à-dire c'est la constatation simple du fait que nos sociétés, malgré des petits pics qu'on a eu en 2017, une croissance plus forte que prévu, que la moyenne à 2,3, mais on voit que ça redescend très vite. On est sur des rythmes de croissance lente. On dit que cette année va être bonne en France parce qu'il y a eu des mesures qui vont relancer un peu la machine, mais ça va être une croissance de 1,4%. L'Italie est en récession, l'Allemagne va descendre à 0,7%. Donc, on a du mal à l'expliquer, mais les tendances de long terme de nos économies, alors même qu'on est en pleine mutation technologique, sont plus lentes qu'elles n'ont été, y compris depuis les années de crise du milieu des années 70, où on était tout de même en moyenne au-dessus de 2%. Là, depuis 2008, on est descendu bas et ça repart pas. Alors, il faut peut-être attendre encore un peu, mais on est dans ce constat-là qu'aujourd'hui, la croissance est lente. Donc, ça veut dire moins de pouvoir d'achat pour la société dans son ensemble. Et par rapport à une situation comme celle-là, quoi faire ? Les gens disent moins d'impôts, et quand ils comprennent que moins d'impôts, ça veut dire aussi moins de services publics, qui fait partie aussi des revendications, ils en viennent à l'idée qu'il faut plus de justice fiscale, pour le dire simplement. Donc, l'équation à laquelle le gouvernement est confronté aujourd'hui, c'est qu'il doit tenir à la fois cette demande, on pourrait dire contradictoire au regard des contraintes budgétaires, de plus de services publics pour réenchanter ces territoires perdus, et de l'autre, faire droit à la demande de plus de pouvoir d'achat qui s'accompagne d'une baisse de la fiscalité, en tout cas pour les plus pauvres. Cette équation, dans les termes où je la pose, si on a en tête de garder les équilibres budgétaires, qui par parenthèse ont été un peu relâchés, c'est une des conséquences des Gilets jaunes que finalement on va pas faire les efforts d'ajustement budgétaire, mais enfin pas non plus laisser le
On a eu la déficit. Trajectoire budgétaire cette semaine, donc déficit 2019 3,1% du PIB, dette publique 98,9% du PIB.
Exactement, mais le point point important, c'est qu'il était prévu que le gouvernement arrive à l'équilibre budgétaire en 2022. En fait, il restera à un déficit supérieur à 1%. Et si on s'arrête en 2021, parce que 2022, c'est l'année des élections et en fait, on s'en fiche. Donc, en fait, en 2021, ce qui est prévu, c'est un déficit de 1,6%. On est aujourd'hui en réalité sur une trajectoire de 2. Ça veut dire qu'on arrête la consolidation budgétaire et on va se contenter de jouer avec ces paramètres-là. Donc, je ferme cette parenthèse pour dire que cette équation moins d'impôts et plus de services publics, sous contrainte budgétaire donnée, on peut évidemment remettre en question, mais sous contrainte budgétaire donnée, qui est celle que le gouvernement s'impose lui-même, elle n'a pas de solution. Et donc, il n'a pas y avoir de solution à ce problème. La baisse de la fiscalité dont on parle, c'est 1 milliard accordé aux premières tranches d'impôts sur les revenus. Peut-être qu'il y aura un peu plus si on arrive à retrouver des marges du côté des niches fiscales, mais...
Suppression de la redevance aussi, qui est l'une des pistes avancées.
D'accord, mais on parle de tout petits chiffres en réalité. Les 10 milliards qui ont été donnés, en fait, c'est ça le cadeau aux Gilets jaunes. Et je ne vois pas comment le gouvernement pourrait le doubler, enfin répéter un geste de cette ampleur-là. Donc on va être sur des choses un peu étroites, très très marginales par rapport à l'attente que ce mouvement a fait naître. Ce qui veut dire, et pour donner la main à un autre sujet, ça veut dire qu'il va être obligé de réinventer une autre dimension, qui est l'autre aspect qui a émergé, celle d'une démocratie participative d'un type nouveau. Ce qu'il ne va pas pouvoir donner sur le terrain budgétaire, je pense qu'il va être obligé d'être beaucoup plus inventif, en tout cas je le souhaite pour lui, du côté de cette aspiration démocratique nouvelle qui a émergé aussi.
Donc, Christine O'Krent, ce que nous dit Daniel Cohen, c'est que quoi ? C'est une chronique d'une déception annoncée, cette histoire de
Mais
grand débat.
Mais il faut toujours se méfier de cette formule « je vous ai compris » ou « je vais vous comprendre enfin ».
Il y a quelques précédents dans l'histoire.
Il y a quelques précédents dans l'histoire et je crois qu'il est relativement malhonnête finalement de ne l'infliger qu'à un Emmanuel Macron qui est au fond un homme de son temps, mais qui a affaire à une opinion publique qui, elle aussi, beaucoup plus individualisée du fait de Facebook et de tous les outils qui permettent à tout le monde et à n'importe qui, d'ailleurs, et souvent sous couvert d'anonymat, d'affirmer toutes sortes de choses qui, hélas, contrairement à notre ami Daniel Cohen, prouve la plupart du temps une méconnaissance complète des principes les plus simples de l'économie. Et donc, ce qu'on a beaucoup entendu, c'est on veut moins d'impôts et plus de services publics. Donc, à partir de là, il est évident que le désenchantement qui habite notre société, et nous ne sommes pas les seuls, c'est un constat, nous sommes les pires depuis longtemps, nous sommes les plus pessimistes en Europe depuis longtemps, quand on regarde les statistiques d'Eurostat, il y a un pessimisme français qui est très ancré, qui n'est pas nouveau, mais il est certain que, et Daniel l'a très bien expliqué, le fait de ne pas avoir une croissance qui permette aux gens d'aspirer à cette classe moyenne qui elle-même a besoin sans arrêt d'outils de consommation plus nombreux, cette croissance en déclin ou cette croissance molle, eh bien, comme l'a très bien dit Daniel, ça ne va pas s'arranger. Donc, demain, au Grand Palais, à Paris, le Premier ministre va donc
restituer.
Moi, ce qui m'a frappé, j'ai trouvé formidable cette participation à ce grand débat un peu partout. Mais ce ne sont pas les Gilets jaunes qui y ont participé. C'est une autre strate de la population en France, souvent des gens plus âgés d'ailleurs, des gens qui étaient ravis de prendre la parole. Et je crois que s'il y a un résultat positif, c'est la restitution du rôle des maires, de ce maillage territorial que le pouvoir élyséen avait eu le grand tort de traiter par dédain, sinon par mépris, depuis le début de ce quinquennat. Mais encore une fois, la restitution à laquelle Édouard Philippe va se livrer demain, à mon sens, ce n'est pas la parole des Gilets jaunes. C'est la parole de gens ravis de s'exprimer. Et on voit d'ailleurs ce qu'on a pu comprendre jusqu'ici de la nomenclature de leurs revendications. Elles ne sont pas nécessairement là où on les attendait. L'immigration, par exemple. Et ça, c'est conforté par différents sondages qui sont sortis ces jours-ci. L'immigration n'est pas un premier sujet de préoccupation. Non,
les impôts, en revanche, et les retraites, au cœur des préoccupations.
Le pouvoir d'achat et les retraites. Et les retraites, pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on a affaire à une population qui vieillit et qui se préoccupe évidemment de son avenir.
Bertrand Badie, face à cette Europe d'opinion publique fragmentée, car finalement, au fond, un certain nombre de pays racontent la même histoire, la France, l'Italie, le Brexit, est-ce que le politique peut encore apporter une réponse qui soit suffisamment satisfaisante pour changer la donne ?
Bah, je crois que vous mettez le doigt sur le problème. C'est effectivement en ces termes que se posent les éléments de ce débat. C'est très bien de débattre, je pense que c'est toujours mieux que rien. C'est toujours mieux que rien, mais finalement, si on regarde ce débat tel qu'il s'est déroulé, il montre quoi ? Les saillances, les impasses, les pathologies, les problèmes de la société française, pas l'esquisse d'une solution. Et derrière cette absence de solution, je vois trois spectres qui sont en train de hanter le paysage politique français, et vous avez raison de rappeler, pas de la France seulement, hein, c'est un phénomène général. Quand on parle du populisme en général, on voit qu'il touche les 5 continents, c'est un peu le cas pour tout ce dont on discute actuellement. Première saillance, c'est une saillance institutionnelle. Alors là, ça me met dans un certain malaise, parce que veut dire ce débat par rapport à cette fameuse volonté populaire, volonté générale dont on nous parle? Pas grand-chose. Je crois qu'il y a eu 1 800 000 contributions. Si ma mémoire est bonne, nous sommes 66 millions et demi. Le génie de notre père à tous, Jean-Jacques Rousseau, c'est d'avoir dit, attendez, un peuple, ça n'existe que quand ça s'institue. C'est-à-dire quand ça peut fonctionner en fonction d'un certain nombre de règles, de normes, d'institutions qui permettent notamment de traduire la délibération en décision. Moi, la question que je me pose, c'est où est le transformateur ? C'est-à-dire, quel type d'institution va pouvoir, de manière légitime, crédible, acceptable par tous, traduire cette espèce d'ébullition de l'opinion en choix politique réel ? Deuxième saillance, c'est quand même la dissolution du social. C'est-à-dire, nous sortons de 20 ans, 30 ans, 40 ans du tout économique, où le social n'existe que par ruissellement, n'est-ce pas ? The growth is good for the poor. La croissance, Daniel ne me contredira pas, la croissance est bonne pour les pauvres, c'est-à-dire, laissez-nous croître, puis vous récolterez des miettes. C'est-à-dire que nous avons, pendant un siècle, construit un welfare state, un état de bien-être, une certaine idée du social, de la solidarité, complètement disparu au nom, effectivement, d'un scientisme économique qui a peu à peu dissous le social. Nous sommes en train de le payer extrêmement cher, autant d'ailleurs sur le plan matériel que symbolique. Et puis le troisième élément, pour couronner le tout, c'est le défaut de politique. Moi, ce qui me frappe dans tout ce qui s'est passé en France depuis la mi-novembre, c'est ce défaut incroyable de politique. Le politique, c'est quoi ? La définition qu'on donne aux étudiants, c'est l'art d'assurer la coexistence entre individus différents. Traduit en termes peut-être plus dynamiques, le politique, c'est l'art de produire des politiques publiques de manière à organiser cette coexistence. Mais où elles sont ces politiques publiques potentielles ? Où est le débat entre programmes ? Où sont les partis ? Où sont les syndicats ? Où sont les propositions ? Le peuple est là pour choisir entre des propositions. Je n'ai pas vu le début, l'esquisse d'une proposition, d'un nouveau projet politique pour la cité.
Alors, Mathieu-Hélène Brulle, de vous répondre à la fois sur ce défaut de politique que vous soulignez, Bertrand Badie, et puis sur cette idée qu'on aurait laissé tomber le social ces dernières années, spécifiquement en France.
Plein de choses à dire. D'abord, le fait que le président de la République soit venu sanctuariser la baisse de l'impôt, alors même que tout le monde, y compris autour de lui encore une fois, considérait qu'il fallait soit supprimer les baisses d'impôt du début, soit en créer de nouveau. Lui dit maintenant, le peuple français veut des baisses d'impôts, on va baisser les impôts. Il y aura, derrière, avant le mot impôt, il n'y a que le verbe baisser. Stratégie qui vient dire, l'État finalement a énormément dépensé, contrairement à ce que vous dites, finalement l'État a énormément dépensé, y compris sur la politique sociale, regardez le budget français, et là, l'État a énormément dépensé, plus que d'autres pays en proportion, et pourtant nous avons quand même les gilets jaunes. Donc raisonnons sur une Notre stratégie que l'État-providence poussait au plus loin que d'autres acteurs compétiteurs ou autres pays, et voyons ce que nous pouvons en faire. Alors bien sûr, les États-Unis ont dit que c'est un pays très libéral, et sur certains aspects c'est vrai, mais qui est, vous regardez le niveau de dette publique, regardez le niveau de dépenses tous les ans, c'est absolument colossal, regardez le niveau d'endettement bien sûr, et vous avez 14% de pauvres aux États-Unis, 14% de pauvres en France. Donc personne ne peut prétendre à avoir le meilleur des modèles, et tout le monde est invité à la modestie. Mais finalement, aujourd'hui en France, le besoin qui a été identifié, qui part des premiers gilets jaunes en quelque sorte, c'est un ras-le-bol de fiscalité et de normes. C'est une volonté de reprendre du pouvoir pour soi. C'est une volonté, quand on a gagné un peu sa vie ou même un peu plus, de pouvoir en garder davantage pour soi et de pouvoir aussi, pour ceux qui en ont plus, le redistribuer soi-même en choisissant à qui le redistribuer. Ce qui s'appelle la solidarité privée choisie volontaire. C'est donc un sujet qui vient contre les idées reçues, qui vient contre nos habitudes. C'est que pour lutter contre les inégalités, il ne faut pas forcément toujours prendre plus pour redistribuer, parce qu'en réalité, on voit bien que ça n'a pas si bien marché. Et donc, il va partir vers cet autre, il va aller plus loin, j'allais dire, à mon sens, hein, vers cette autre stratégie. Et moi, j'inviterais plutôt le gouvernement, non pas à dire qu'il faut baisser l'impôt sur le revenu des deux premières tranches, mais de toutes les tranches. Car en réalité, si vous voulez créer un vrai signal fort, il ne faut pas rentrer dans le bricolage. Et ça m'étonnerait qu'Emmanuel Macron rentre dans le bricolage, mais nous verrons ce qu'il va donner. Mais ce qui doit être fait, c'est sans doute parce que quand vous considérez qu'il ne faut plus augmenter les impôts pour régler un problème d'inégalité, il faut trouver une solution. Et laquelle est-ce? On ne l'a pas encore entendu ici alors qu'il y a d'éminents représentants, mais c'est l'école. C'est l'école. Il n'y a pas d'autre solution que l'école pour lutter contre les inégalités, pour défendre l'égalité des chances. Et je ne suis pas devin, mais si j'imaginais la suite de tout cela, je verrais bien Jean-Michel Blanquer prendre un pouvoir plus important.
Ça veut dire quoi, parier sur l'école?
Moi, j'imagine.
Ça veut dire revaloriser les salaires des enseignants? Ça veut dire augmenter le budget de l'éducation nationale?
Ça veut dire qu'il y a effectivement cette zone à sanctuariser, qu'effectivement, le régalien doit redevenir la priorité et intégrer l'école. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de services publics qui ne doivent pas disparaître. Contrairement à ce que Daniel dit, c'est pas parce qu'on baisse la dépense publique que le service public disparaît, mais que, surtout aujourd'hui, surtout dans une période où on a de nouveaux outils, dans la plateformisation, comme dans le regard que nous pouvons avoir désormais sur les tentatives, par exemple, d'externalisation du service public au privé, je finis juste ça, ça a été raté parfois en Angleterre, parce qu'il n'y avait pas assez d'exigences de qualité de service public, mais il y a un rapport la semaine dernière, le rapport Webel porté par Olivier Duhas, que nous avons travaillé avec lui d'ailleurs, et qui travaille sur le fait, qui a démontré qu'on pouvait diminuer de 25 milliards la dépense publique à qualité constante de service public, et en transférant une partie de ces services au privé,
là,
mais sur les fonctions, support,
le gouvernement Sibeth Ndiaye redit bien ce matin que l'objectif de 120 000 fonctionnaires en moins reste un objectif du gouvernement. Comment on fait baisser la fonction publique de 120 000 fonctionnaires tout en promettant un service public qui sera beaucoup plus performant?
Sur les services publics de support, sur les cantines, sur ce genre de choses qui peuvent être faites par des acteurs privés qui peuvent d'ailleurs reprendre les emplois et les gérer différemment. Et sur vous savez, on a toujours une espèce de... On sort immédiatement dès qu'on voit la baisse de la dépense publique potentielle alors qu'on en a bien besoin. Tout de suite, on a l'impression qu'il y aura moins de policiers, moins de profs et que tout le monde va être paupérisé. En réalité, nous avons le recul suffisant, il y a des experts sur ce sujet, des intellectuels, des académiques, des gens qui ont travaillé dans des gouvernements qui permettent de démontrer qu'on peut le faire à qualité constante avec moins de monde.
Alors, le président de la République, Daniel Cohen, avait dit il faudrait moins de fonctionnaires de circulaire et plus de fonctionnaires de guichet. Vous y croyez à ce genre de paradigme?
Écoutez, on peut toujours faire plein de plans formidables, mais tout ce que vient de dire Mathieu, c'est en gros sortir du champ de la sphère publique un certain nombre de tâches et les faire par d'autres, donc non pas les faire disparaître, mais espérer que les autres tâches seront plus efficaces. Aux États-Unis, la dépense publique est beaucoup plus faible qu'en France. Les dépenses d'éducation, les dépenses de santé sont beaucoup plus importantes qu'en France, simplement parce que c'est privé dans un cas, c'est public de l'autre. Si vous voulez aller à Harvard, qui est l'équivalent de notre polytechnique, ça coûte 100 000 dollars par an aux parents. Bon, donc ils payent moins d'impôts, mais ils se ruinent à envoyer leurs enfants dans les classes. Alors tout le monde n'y va pas, donc on peut imaginer qu'il y a de la redistribution implicite dans tout ça, mais en gros, ce que j'entends et qu'on nous répète tout le temps, on peut faire par d'autres ce que font certains fonctionnaires, pourquoi pas, très bien, mais ça ne fait pas descendre les dépenses qu'on consacre à ces tâches, c'est juste qu'on les sort du champ du public et en espérant une meilleure efficacité, peut-être parfois, peut-être qu'il y a des baisses de qualité aussi, vous savez, aux États-Unis, en Suède, ils ont touché à l'école en essayant de créer un système de vouchers qui permet précisément de privatiser l'école, et les classements de la Suède à l'UNESCO sur la qualité de l'enseignement se sont effondrés en l'espace de 10 ans. Donc il y a toujours moyen de raconter des histoires, mais après il faut regarder. Il y a toujours. Oui, mais alors cantines. Si c'est les cantines, ça change rien. C'est-à-dire que l'État va payer à des cantiniers ce qu'il fait aujourd'hui. On peut le faire, pourquoi pas. Mais ça ne va pas réduire la dépense, sauf à dégrader la condition des cantinières concernées. C'est ce qu'on fait depuis toujours. L'État peut le faire aussi, mais il faut arrêter de penser qu'il y a des baguettes magiques qui tout d'un coup vont réinventer ce que font les gens aujourd'hui.
Alors, moi, je pense qu'il faut arrêter de
les grands sujets qui se posent pour les dépenses publiques, comme on l'a dit, c'est surtout les dépenses sociales. Bon, ce gouvernement a massacré au départ ce qui aurait pu être un axe d'une réforme, celle des retraites, puisqu'il a taxé plusieurs fois les retraités pour financer les baisses d'impôts. Parce que vous dites, il faut des baisses d'impôts, mais il n'y en a pas eu. Si on regarde en 2018 ce qui s'est passé, la pression fiscale a été inchangée en réalité. On a pris d'une main ce qu'on a donné aux autres, on a pris aux retraités ce qu'on a donné, notamment aux 4,5 milliards qui ont été dépensés par l'ISF et la baisse des prélèvements sur les revenus du capital, ce qu'on appelle la flat tax. Les gens l'ont vu, ça. Ils ont vu qu'on faisait un transfert d'un côté pour le donner à l'autre, et que pour eux, ce qu'on leur annonçait, c'était de nouvelles taxes sur les carburants. Donc, ce que le gouvernement, je crois... Non, vous n'allez pas parler, Mathieu, je vais pas... Ce que le gouvernement a compris, et je crois que le président en premier lieu, c'est que ces histoires, je prends, je redonne, je crée un tourbillon fiscal. Il l'a dit d'ailleurs plusieurs fois, et j'ai trouvé que c'était une belle autocritique. Ceux qui gagnent à ce jeu... Eh bien, ils prennent et on les entend plus. Et ceux qui perdent, ils lèvent la main. Donc, terminer ces histoires dans lesquelles on augmente les taxes sur les impôts, en baisser d'autres et faire croire qu'on a réalisé une pression fiscale.
Mathieu Lette, d'ailleurs,
dire qu'aujourd'hui, si ce jeu-là est terminé, le gouvernement se retrouve face à une équation très difficile du point de vue budgétaire. Et cette question, la baisse d'impôts qui semble un étendard facile à lever, va quand même constamment lui être renvoyée, cette question de la baisse de l'ISF, etc., parce que cette idée qu'il a fait une redistribution à l'envers, malgré les transformations que les 10 milliards ont permis de faire, restera encore longtemps pour lui. Donc s'il n'a pas dans son chapeau quelque chose qui montrera qu'il a entendu que les gens, à périmètre donné de la dépense publique aujourd'hui, veulent un peu plus de justice fiscale que celle qu'il a faite lui-même au début du mandat, je pense que ça va le poursuivre encore pour les années qui viennent.
Mathieu Lenne, alors même que lorsqu'on vous lisait cette semaine dans le Figaro, proposant à votre ami le président qu'il sorte du grand débat en baissant l'impôt sur le revenu, en baissant les dépenses publiques, en renforçant le régalien, dites-vous, vous avez quand même donné le sentiment que vous vouliez qu'il oublie toute dimension sociale pour assumer d'être un vrai président libéral.
Et vous n'avez pas lu la suite. Je parle de baisse de la fiscalité nette. Donc effectivement, le jeu de passe-passe que vient de décrire Daniel, je suis d'accord avec lui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'il change. Parce que jusqu'à présent, la baisse de la fiscalité nette, on l'a pas vue. Et Daniel a bien raison. Donc là, il faut aller plus loin. Il faut vraiment baisser la fiscalité nette. Il faut vraiment baisser une partie de la dépense publique. Croyez-moi, il y a un peu de marge. Il y a bien des endroits où on peut la réduire. Et puis, je propose par ailleurs, c'est pas la disparition du social. Vous savez, quand le social n'est plus assumé par un acteur public, il est assumé par un acteur privé. Et le privé, tout à coup, paraît être un cauchemar.
Vous avez moi, je suis même favorable. De mutation de son progressisme originel vers un macronisme ordo-libéral.
Ouais, attends,
passons toujours par ordo-libéral,
ça passe toujours par l'État.
Vous l'avez écrit.
C'est pas ça la dissolution.
Juste un mot. Là, vous savez, moi, je suis favorable à une forme d'impôt volontaire. C'est sans doute pas le bon mot, mais comme ça, tout le monde comprend. On baisse la fiscalité et puis on incite les gens, de manière très claire et très fléchée, à dire, écoutez, on va lutter contre la pauvreté, on va investir dans la recherche. Qui veut donner, donne. OK? À tout niveau. Qui veut donner, donne. On peut faire un peu de shame list, comme on dit, un peu de honte pour ceux qui ont gagné beaucoup cette année-là et qui n'en ont pas donné. Mais redonner... Cessons cette logique de la contrainte. Redonnons un peu de conscience sociale, justement, à chacun. Essayons cela. De toute façon, aujourd'hui, notre système ne marche pas. Donc, essayons quelque chose d'autre. Et encore une fois, le mot école est fondamental. Et l'école, j'étais pas en train de vendre la privatisation de l'école, là. J'étais en train de dire, il faut qu'un Blanquer, qui a commencé à diviser les classes par deux, pour certaines classes, puisse continuer à le faire, peut-être aller au-delà même des zones les plus défavorisées, qui puisse, lui, travailler, puisqu'il a cette vision sur l'école de la confiance, et la déployer véritablement. Et ça, vous sanctuarisez. Parce que ça, c'est la promesse que les enfants qui arrivent d'un milieu défavorisé puissent effectivement monter. Parce que c'est en fait la clé.
Christine Ockrent, dans cette sortie du grand débat se joue aussi la relation personnelle d'Emmanuel Macron aux Français. Et on a entendu tout à l'heure François Ruffin qui disait que la dernière chose qui fédérait les Gilets jaunes sur les ronds-points, ça reste la volonté de faire partir Emmanuel Macron. Est-ce que le grand débat a changé Emmanuel Macron dans sa relation aux Français? Est-ce que le grand débat a changé les Français dans leur perception d'Emmanuel Macron?
Je crois qu'Emmanuel Macron a découvert la France. Parce qu'au fond, voilà un garçon brillantissime qui a prouvé à chaque fois sa maîtrise du grand oral, et c'était ça. Ces débats publics, c'était époustouflant.
Performance one-man show.
Néanmoins, il ne connaissait pas la France. Et il ne connaissait pas les Français dans l'extrême difficulté d'ailleurs de ce tempérament national. Peut-être les aurait-il connus qu'il aurait hésité davantage à se faire élire à l'Élysée. Je plaisante. Donc oui, je crois que ça a été une leçon de choses d'abord pour lui. Et donc, voilà, c'est une expérience chère payée par le pays, douloureuse pour son image à l'étranger et pour l'image d'ailleurs que nous avons tous de nous-mêmes. Cela étant dit, il n'y a pas de baguette magique non plus dans cette empathie nécessaire ou dans cette forme de reconnaissance que un certain nombre de gens peuvent éprouver vis-à-vis d'un personnage public. Et encore une fois, si on avait demandé à tous les prédécesseurs d'Emmanuel Macron d'établir en fait cette même alchimie de façon miraculeuse avec un peuple aussi rétif et aussi disparate et aussi éclaté aujourd'hui dans ses aspirations, à mon avis, aucun président de la République n'aurait réussi cette performance. Moi, ce qui me frappe dans notre discussion jusqu'ici, et je rejoins Bertrand Badi, c'est l'ambiguïté du terme social. Parce qu'enfin, il faut quand même pas se leurrer, on a le système social le plus efficace d'Europe. On a le moins d'inégalités en Europe, quand on les inégalités qui sont une obsession française, à juste titre à mon avis, nous avons un système qui est parmi les moins inégalitaires. Donc là aussi, quand on parle de système social, rappelons-nous que nous avons un système social qui coûte très cher, que vraisemblablement nous ne pourrons plus nous offrir à long terme, et surtout avec une population vieillissante, avec les problèmes de dépendance et les problèmes de retraite, surtout si elle reste figée, ses retraites, à 62 ans sur le papier. Donc par rapport à tout cela, il faut quand même répéter que la France a, et c'est le fruit de longues luttes et de longs sacrifices, mais nous avons le système social quand même le plus enviable d'Europe. Mais quand Bertrand Badi parle d'une dissolution, en fait, du lien social, c'est là, à mon avis, ce qui est préoccupant. Et vous citiez ce livre excellent
de Fourquet, L'archipel français.
En fait, ce lien social, c'est la capacité, au fond, de penser collectivement. Et là, à mon sens, on rejoint l'un des propos du président de la République quand il disait... Bon, il y a le projet, mais l'individualisme, l'idée qu'il y aura 60 millions de réponses pour satisfaire 60 millions de personnes, en oubliant les tout petits enfants, c'est impossible.
Pour terminer, Daniel Cohen, c'est vrai que par le biais de ce grand débat, chaque parti politique formule ses propositions. On a pu entendre Laurent Wauquiez expliquer qu'il voyait plus large que La République en marche en réclamant une baisse de 10% de l'impôt sur le revenu. Le Parti socialiste, lui aussi, à l'issue de ce grand débat, formule ses propositions, demande par exemple un ISF vert pour financer la transition écologique, la hausse de la prime d'activité et du chèque énergie. Est-ce que c'est le grand retour de la politique aussi à l'issue de ce débat ?
Oui, en partie, parce que bon, on a fait le diagnostic dans un sens ou dans l'autre des difficultés de faire tenir cette équation contradictoire qui émerge de tout ça. Mais en tout cas, moi, je prends très au sérieux le fait qu'il y a une demande d'expression politique. On est tous d'accord pour dire qu'il y a une dissolution du lien social au sens où le monde industriel des années 50 et 60 qui produisait des syndicats, qui produisait une classe ouvrière forte et qui donnait au fond à chacun le sentiment d'une place dans la société, tout ça s'est effiloché. On vit beaucoup plus seul dans des emplois de conducteurs de camions, d'infirmières libérales. libérale, etc., et qui a besoin de retrouver du lien social, du lien politique. Ça fait partie de la demande d'expression. Et c'est pour ça que le président, à défaut de grandes solutions du côté économique, doit trouver des solutions sur ce terrain-là. Il doit réinventer quelque chose, parce que la Ve République, avec lui, tout d'un coup, elle apparaît à nu. La Ve République s'est donné beaucoup de pouvoir, peut-être pas tout le pouvoir, mais presque tout le pouvoir à un homme. Une femme un jour, j'espère, mais pour l'instant, un homme. Et jusqu'à présent, c'était euphémisé. C'était Sarkozy qu'on avait vu dans une histoire politique. Même Hollande venait du Parti Socialiste. Tout d'un coup, on a un homme surgi de nulle part qui accapare tous les pouvoirs et qui le théorise dans l'idée qu'il sera jupitérien. La réussite de cette séquence pour lui, pour Macron, c'est que, je crois, il s'est réinventé, il s'est déjupitérianisé. Mais il faut maintenant que ça se traduise dans des formules concrètes. Il a redécouvert les maires, peut-être. À Dieu ne plaise qu'il va redécouvrir les syndicats aussi.
Il faut qu'il construise... Il annonce peut-être un mouvement de la décentralisation.
Donc, décentralisation, il faut qu'il invente un nouveau modèle de référendum, une nouvelle chambre tirée au hasard. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent surgir, mais il faut qu'il soit très inventif sur ce terrain-là, parce que, encore une fois, il n'aura pas beaucoup de ressources de l'autre côté.
Avant de partir pour la Grande-Bretagne, conclusion sur cette première partie, Bertrand Badie.
Oui, moi, en tant que vieux d'Urkémien, je suis quand même très préoccupé de voir ce triple échec en même temps. C'est-à-dire, il n'y a plus de lien social, il n'y a plus de parti politique, il n'y a plus de programmation politique, et les institutions ont perdu beaucoup de leur crédibilité. Mais cette dissolution de lien social, et pour prolonger ce que disait Christine Ockrent il y a un moment, c'est quelque chose qui va extrêmement loin. Qu'est-ce qui a fait que pendant les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à la chute du mur, ça marche avec la bipolarité d'ailleurs. Qu'est-ce qui a fait qu'en France on a eu très peu de populisme, sauf l'épisode Poujade? C'est parce qu'il y avait de véritables contre-sociétés autour du Parti communiste, autour de la CGT. Il y avait véritablement un lien de solidarité de classe, d'identification à des modèles, à des utopies, à des espoirs. Il n'y a plus d'utopie, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de modèle, il n'y a plus de contre-socialisation. Et donc, effectivement, on a un peuple livré à lui-même au moment où on chante les délices de l'individualisme et du tout économique. C'est-à-dire, dissolution du social, c'est aussi, mais dans les choix collectifs, je vois l'impact économique, mais je dois voir en même temps, je dis bien en même temps, comme dirait l'autre, en même temps, les conséquences sociales du phénomène. C'est pas seulement l'état de bien-être, évidemment que cet état de bien-être, il existe toujours, peut-être pas pour longtemps, mais c'est quand même une disposition de l'esprit politique, c'est-à-dire cette évaluation des choix que l'on fait à l'étalon de ses conséquences sociales.
Alors, incapacité à refaire nation, société fragmentée, fracturée, voilà qui nous évoque aussi la Grande-Bretagne, encore une semaine où l'on a suivi la saga du Brexit. Si le Brexit était une série télé, il faudrait saluer le talent des scénaristes à si bien entretenir le suspense. La saga du Brexit est un système britannique qui semble à bout de souffle, c'est la deuxième partie de L'Esprit public.
France Culture, L'Esprit public, Émilie Aubry.
Imaginez l'impensable, une campagne des européennes qui s'organiserait à la va-vite en Grande-Bretagne. Des partis obligés de prévoir candidats, affiches et slogans, alors même qu'ils n'étaient plus censés se soucier de l'avenir des institutions européennes depuis le coup de tonnerre du 23 juin 2016 qui avait donné une majorité au pro-Brexit. Cette semaine, en effet, Theresa May avait dû s'engager à mener, je cite, les préparatifs responsables en vue d'organiser les élections européennes pour obtenir de Bruxelles un nouveau report du Brexit. On avait parlé du 29 mars, puis du 12 avril. On entendait maintenant parler du 23 mai, voire du 30 juin, voire d'une longue extension flexible jusqu'au printemps 2020. En attendant, Theresa May tentait une énième tactique pour parvenir à ses fins, à savoir un Brexit doux ou divorce à l'amiable, c'est-à-dire un accord avec les Européens. Elle avait enfin décidé d'engager le dialogue avec le leader de l'opposition, Jeremy Corbyn, quitte à se mettre à dos une grande partie des conservateurs, surtout en cédant sur un point crucial, le maintien de la Grande-Bretagne post-Brexit dans une union douanière. Un casus belli pour les partisans d'un Brexit dur, qui précisément voulait se libérer des pesanteurs bruxelloise pour développer une politique commerciale autonome. Bref, l'avenir britannique semblait toujours aussi incertain. Ce qui apparaissait clairement, en revanche, c'était l'essoufflement d'un système. Comme si le référendum de 2016 avait modifié en profondeur l'équilibre du modèle politique britannique basé sur la souveraineté parlementaire. À regarder ce Parlement sans cesse dans l'impasse, qui semblait dire non à tout, incapable de faire preuve de responsabilité, ces alliances qui se nouaient et se dénouaient, ces combines des uns et des autres à l'intérieur même des familles politiques, on se disait qu'il était loin le temps où l'éminent historien français de la fin du 19e, Auguste Legel, écrivait dans la Revue des Deux Mondes, je le cite, « Il n'y a pas d'assemblée plus auguste que le Parlement anglais. Les Anglais ont appris à l'Europe, à l'Amérique, à l'Australie, au monde entier à connaître, à envier un certain idéal de gouvernement qui met la force au service de la raison. La souveraineté du Parlement britannique s'arrête toujours instinctivement devant tout ce qui semble menacer la patrie. Autre temps, autre mœurs. »
Order!
Order!
The eyes to the right, 286. The nose to the left, 344.
Monsieur le Speaker, nous sommes en train d'atteindre les limites du système de cette Chambre des communes. Ce Parlement a rejeté le no deal, le no Brexit. Il a aussi rejeté toutes les variantes de l'accord sur la table. Et aujourd'hui, il a encore rejeté l'accord de retrait. Le gouvernement va continuer à appuyer le cas du Brexit, exigé par le résultat du référendum.
Voilà, Christine Ockrent, vous avez bien sûr reconnu Theresa May et la séance parlementaire du vendredi 29 mars.
Et le speaker.
Et John Bercow, le désormais célèbre speaker de la Chambre des
communes. Qui a invoqué un précédent de 1604 pour interdire à la Première Ministre de présenter pour la troisième fois le même texte.
Il y a tout eu de toute façon ces derniers jours, et même un gros dégât des eaux qui s'est abattu sur l'hémicycle comme une sorte de triste symbole. On propose, paraît-il maintenant aussi aux parlementaires anglais, une aide psychologique tellement on a atteint
une cellule
un point. C'est une réalité. J'ai lu ça dans la presse anglaise cette semaine. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette saga du Brexit, de l'essoufflement du modèle politique britannique ?
À mon avis, il y a trois choses. D'abord, que le système parlementaire est incompatible avec le référendum. Et ça, c'est une expérience que nous avons vécue, nous qui ne vivons pas dans un vrai système parlementaire, à la différence des Britanniques. Ensuite, que le mode de scrutin uninominal à un tour, qui permet à cette tradition parlementaire britannique d'être organisée depuis toujours, enfin en tout cas depuis le 19e siècle, en deux grandes formations politiques. Ce mode de scrutin est mis en cause. Pourquoi ? Parce que ces deux grandes formations politiques, en fait, n'existent plus. L'une comme l'autre sont en train d'imploser. Et on en arrive à un scénario véritablement à la Monty Python, où vous voyez une première ministre qui était pour rester dans l'Europe, collée au plus dur de ceux qui voulaient sortir sans parvenir à contrôler son parti, donc le parti conservateur est mort. Et vous voyez en face un leader du parti travailliste qui lui était pour sortir et qui s'efforce de contrôler un parti dont la plupart des députés sont pour rester, et surtout dont les militants et les jeunes, qui ne s'étaient pas assez déplacés pour voter au moment du référendum, sont pour rester. Donc on est dans une situation absurde, avec en plus un parti travailliste qui n'a pas vraiment envie de prendre le pouvoir, parce que le paradoxe, c'est que les sondages, apparemment, donneraient à nouveau la victoire aux conservateurs. On est dans une situation qui, encore une fois, et vous le disiez fort bien, prouve que ce système est à bout de souffle. Pour autant, est-il capable de se transformer lui-même ? Non. Parce que, bien évidemment, les deux grands partis ont intérêt à coller au même mode de scrutin. Ils ne vont pas se suicider. S'ils changent pour un système qui introduirait, pour aller vite, davantage de proportionnel et permettre au Lib Dem, enfin, ce que nous appellerions le centre, qui est très pro-européen, avec une poignée de députés à la fois de droite et de gauche qui sont sortis de leurs partis respectifs pour essayer de former un nouveau centre, dont quelques femmes d'ailleurs très prometteuses pour qui s'intéressent à l'avenir de cette grande démocratie, ils vont pas le faire. Et donc, véritablement stupéfiant de voir comment un système qui, encore une fois, fonctionne sans constitution, Il y a la Magna Carta, donc ça remonte, je parle sous le contrôle du professeur Badi et je regarde mes notes, 1215. Il approuve Jean Santerre et les barons qui extorquent à Jean Santerre ses privilèges. On voit que c'est un système politique admirable qui est obligé de se réinventer. Et le paradoxe, c'est que si véritablement ils vont aller organiser des élections européennes au mois de mai, peut-être est-ce une chance tout à fait baroque de voir l'éclosion d'une volonté populaire s'exprimer pour un autre parlement que le que Westminster.
Alors, en effet, Mathilaine, je rappelle bien sûr que vous vivez à Londres. On a donc évidemment très envie de vous entendre sur cette atmosphère britannique dans cette saga du Brexit. Est-ce que les Britanniques suivent avec un mélange de passion et d'effroi ces séances parlementaires qui relèvent maintenant vraiment du spectacle, sans doute du triste spectacle. Et puis c'est vrai qu'en parallèle, il y a ces manifestations pour réclamer un nouveau référendum. On y entend beaucoup que Theresa May ne sait pas ce que le peuple veut et que c'est pour ça qu'il y a autant de monde dans la rue, près d'un million de personnes. Quelle est l'ambiance aujourd'hui dans les rues de Londres ?
Alors, plein de précautions. D'abord, quand on est trop près de son sujet, on le connaît moins bien. Ensuite, quand on est à Londres, on n'est pas en Grande-Bretagne, donc il y a un biais considérable. Quand on est dans les mondes dans lesquels nous évoluons, on croise plus facilement des Remainers, des gens qui considèrent que l'Angleterre devrait rester dans l'Union européenne, que des Brexiteurs. Donc tout ça, ça biaise. Mais tout ça dit avant cela, et en tirant profit de Christine, qui comme toujours a ce sens de la pédagogie, tout en étant rigoureuse de l'international.
Vous la faites rougir.
Non, mais c'est vrai. Vous savez, Shakespeare, il y a tout dans Shakespeare comme dans Molière. Et quand on pense à Theresa May, on pense à cette phrase « Chaque jour qui passe ajoute une plaie à ses blessures ». La pauvre Theresa May, on est dans le jour, elle est en train de subir effectivement la succession des échecs. Premier échec, ça a été de négocier avec l'Union européenne, elle n'y arrivait pas. Ensuite, ayant négocié avec l'Union européenne, évidemment de convaincre son Parlement, elle n'a pas réussi. Le Parlement prend la main, il n'y arrive pas, la une du Guardian avec 8 non. Donc c'est non à tout, effectivement, ou sauf au non-deal. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est de voir comment la France peut jouer par rapport à cela. Alors on a une position très particulière hein, côté français, puisqu'en fait on est bad cop, on est Emmanuel Macron a décidé d'être dur, très dur. C'est difficile de se positionner sur ce sujet. Là, impossible de prédire l'avenir, bien entendu.
Contrairement à Angela Merkel ou à Donald Tusk.
Exactement. Donc, analysons-le de près. Je suis pas de son avis. Ce qui arrive là. Mais sans prédire, évidemment, c'est que la probabilité que Theresa May s'ouvrant enfin, comme vous l'avez dit, je reprends votre mot, au Labour, et considérant enfin que cette discussion est une discussion qui en réalité concerne le pays dans son ensemble et pas simplement son parti. Mais c'est vrai qu'on comprend pas bien ça chez nous. Chez nous, les partis durent 5, 10, 15, 20 ans. Chez eux, le parti date depuis 1834. Et donc, l'union du parti est presque aussi importante que l'union du pays. Cette tentative-là risque d'échouer, de ce que je perçois. Si elle pouvait réussir, on serait tous très heureux et ce serait terminé. Mais ça risque d'échouer demain. Si ça échoue, l'alternative, c'est quoi ? Une extension, comme ils disent, un délai court pour tenter encore, comme si on y croyait, avant les élections, de pouvoir trouver un nouveau deal, ou un délai long. Le président de la République française dit « délai court ». Et fort heureusement, il a précisé, mais je ne mettrai pas mon veto. Il l'a dit un peu plus tard. Ça m'a rassuré. Je pense que, même si ça peut paraître paradoxal, ça ne se gère pas comme un deal habituel, si je puis dire, comme une négociation habituelle. Bien sûr que ça fait 3 ans. Et que si en 3 ans on n'y arrive pas, peut-être qu'en 4 ans on n'y arrive pas. Mais c'est un peu comme quand on arrive dans un hôtel et que la chambre est pas géniale. Et qu'on a envie d'une chambre meilleure et qu'on va négocier. On a déjà le non et si on essayait d'avoir le oui. En l'occurrence, il faut se donner 1 an pour essayer d'avoir le oui. Il faut se donner 1 an pour essayer de les garder dans l'Union Européenne. Pardon d'être biaisé, mais je pense que c'est mieux pour nous tous. Puisque quand on regarde les grands ensembles dans le monde, il vaut mieux les avoir avec nous que contre nous. Je comprends le président de la République quand il considère qu'à court terme, si les Anglais votent aux élections européennes et qu'il décide ensuite des nominations importantes, du budget de l'Union européenne, des grandes décisions, et puis qu'ensuite ils s'en vont. Voilà un conflit d'intérêts très compliqué. Le rêve aurait été qu'on puisse négocier un traité qui leur permette de gérer leur sortie sans qu'ils aient à voter, sans qu'ils aient à ensuite, ou bien sans qu'ils aient à se prononcer sur un certain nombre de grandes décisions, mais on n'y est pas. Donc comment on fait? Ben, je crois qu'il va falloir tenter, à mon sens, enfin je le souhaite, et plutôt dans la ligne Merkel, de leur donner du temps pour que, comme dit Hugo Dixon dans le FT, là, il n'y a pas très longtemps, il faut se donner le temps de pouvoir rester dans l'Union européenne.
Alors, est-ce que ce temps sera donné? On le saura la semaine prochaine sur l'impact de ce Brexit en France et dans ce contexte des élections européennes. Bertrand Badi, je voudrais qu'on réentende rapidement la place qu'a occupé ce Brexit dans ce débat qui a eu lieu en France jeudi soir à la télévision sur France 2. Le premier débat avec toutes les têtes de liste pour les élections européennes. Et on a parlé longuement du Brexit.
Les Britanniques ont fait un choix qui est très clair, qui est celui de la démocratie. Ils ont fait le choix de quitter cette prison qui est devenue l'Union européenne. Le Brexit, c'est la sortie. Moi, j'espère que la France, elle aussi, elle va renouer avec la démocratie le plus vite possible.
Le Brexit, c'est l'occasion de remettre à plat la construction européenne, de s'apercevoir des impasses de cette compétition de tous contre tous.
Il ne faut pas avoir peur de sortir de l'Union européenne, ni de la construction européenne.
Le Brexit, c'est une catastrophe.
On voit avec le Brexit comment les passions tristes, la haine, le rejet de l'étranger amènent dans une impasse absolument totale.
La Russie. Voilà, vous aurez reconnu sans doute Jordan Bardella, Manon Aubry, François Asselineau, Manon Loiseau, Bertrand Badi. Je ne sais pas si vous avez suivi ce débat. Manon Aubry et Nathalie Loiseau, la tête de liste de La République En Marche. La façon dont chacun de ces ténors politiques se saisit du Brexit pour l'amener à ce qu'il veut démontrer de sa vision
c'est l'Europe. Pour certains.
Les têtes de liste, en tout cas, ça vous inspire quel commentaire sur la manipulation?
Beaucoup de tristesse, parce que si c'était une copie, je mettrais hors sujet et effectivement incompréhension du sujet. Ce Brexit, je trouve que c'est une leçon très riche, mais qui va bien au-delà et du diagnostic du système parlementaire britannique et des diagnostics électoraux qu'on a entendus il y a un instant. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est pas la faillite du système parlementaire britannique, même si il peut compliquer certains aspects des choses. C'est au moins trois éléments qu'il faut méditer. Premier élément, finalement, sortir de l'Union européenne, même si, comme la Grande-Bretagne, on n'y était pas tellement impliqué à cause de extériorité à l'euro, extériorité à Schengen, etc. C'est horriblement compliqué, horriblement coûteux. C'est-à-dire, c'est pas des petites choses sur lesquelles on débat actuellement. Je veux dire, la frontière à l'intérieur de l'Irlande, le problème de l'union douanière, le problème du statut des personnes européennes qui se trouvent en Grande-Bretagne et des Britanniques qui se trouvent en Europe. Tout ça, ce sont pas des petites choses, et ça prouve finalement que l'intégration européenne dans la quotidienneté, la banalité du jeu social et politique est beaucoup plus profonde qu'on ne le croit, et que finalement ce divorce n'est pas simple parce que c'est véritablement sortir de ce qui est devenu une réalité banale. Deuxième élément, c'est que contrairement à ce qu'a dit le premier orateur, mais j'ai été rassuré en apprenant que c'était représentant du Front National, c'est pas du tout un choix clair. Le problème de la Grande-Bretagne et de l'Union Européenne, c'est pas oui ou non. Ça, c'était le jeu de Pierre Belmar autrefois, ni oui ni non. C'est pas du tout ça. C'est le choix entre des formules nombreuses et extraordinairement sophistiquées. Et c'est pour ça que c'est pas du tout réductible à un référendum où on dit par oui ou par non qu'on est pour ou qu'on est contre. C'est-à-dire que le véritable choix, c'est de savoir se prononcer sur des projets extrêmement nourris qu'on ne connaissait pas au moment du référendum et dont on peut considérer qu'ils ne sont pas véritablement achevés aujourd'hui. Le troisième point, c'est peut-être une certaine, effectivement, faute de la démocratie ou de la démocratie parlementaire, où ce qui apparaît chez nos amis britanniques, c'est que les considérations de politique intérieure et de politique partisane l'ont emporté de beaucoup sur celle de l'intérêt national. Moi, ça me frappe. Tout le jeu de Madame May, c'était de maintenir un parti conservateur autour de l'idée d'un Brexit dur. Et elle, qui n'était pas Brexit dur, qui n'était pas hard Brexit, a choisi de pencher de ce côté-là, pensant que c'était la meilleure façon de sauver la mise du Parti conservateur. Et on voit symétriquement le même calcul du côté travailliste. C'est pas terrible, parce que finalement, quel est l'enjeu plus important, l'avenir de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne ou l'avenir du Parti conservateur dont tout le monde se moque en fait en réalité?
C'est ça aujourd'hui la vraie conclusion du Brexit, Daniel Cohen, c'est les limites des finasseries politiques, ça s'appelle le cynisme en politique?
Oui, en partie, mais je voudrais suspendre un peu le jugement très négatif qui vient d'être exprimé à l'encontre de Madame May et de tout ça, et pour rejoindre un peu le fait que c'est quand même très complexe et que finalement, au bout du compte, on peut être un peu plus indulgent vis-à-vis d'elle. La première chose, pour reprendre ce que disait Christine aussi au début, c'est que le système anglais, qui fait sa beauté, qui fait sa grandeur, c'est d'instituer le dissensus au cœur de la démocratie. Il y a une opposition, il y a un parti au pouvoir, ils sont l'un en face de l'autre, et tout est fait pour qu'ils expriment le maximum de différences à l'intérieur du cadre parlementaire. C'est la beauté du système démocratique anglais. Il ne fonctionne que parce que, en effet, corollaire de cette idée, il y a une droite et une gauche, il y a un parti et une opposition, bref, il a besoin d'être bipolaire. L'un va avec l'autre, le dissensus peut être institué, à condition qu'il est blanc ou noir et que chacun réponde à l'autre ce qu'il aurait fait à sa place. C'est ce qui fait que le modèle anglais, en effet, est sans doute la source de la démocratie représentative moderne. L'Europe fracasse cette opposition droite-gauche. Partout. C'est au sein de la gauche et au sein de la droite, partout en Europe, que se créent des oppositions. C'est pour ça que ce système a beaucoup de mal à aborder cette question. Ça, c'est le point numéro un. Et donc, oui, il est confronté. Alors, le référendum a été le poison, peut-être, qui a institué ça. Mais plus généralement, je crois, on le voit partout en France. On le voit partout en Europe et en France en particulier.
Et on l'a vu jeudi soir.
C'est toujours comme ça. Et à pour et contre, à l'intérieur de chaque camp. Donc, c'est très compliqué quand il y a deux camps qui sont institués comme seuls représentants légitimes de cette démocratie elle-même. Le point numéro deux, on n'en a pas parlé, c'est que ce que personne n'avait prévu dans cette discussion sur le Brexit, c'est la situation irlandaise qui est revenue à la figure et qui a obligé à trouver des compromis pragmatiques, sauf à perdre l'Irlande.
Mais c'est sidérant que les Britanniques n'y aient pas pensé.
Oublié complètement. Ouais, on découvre qu'il y avait l'Irlande et que derrière l'Irlande, il y a l'Écosse, etc. Donc c'est en fait très très compliqué. Alors à partir de là, qu'a fait Madame May? Elle a compris que pour garder l'Irlande, il fallait un compromis. Ce compromis, tout le monde le connaît. Ça s'appelle une union douanière avec le reste de l'Europe pour éviter une frontière dure. Ce qu'elle a proposé au terme d'une longue discussion avec Monsieur Barnier, et en effet pour faire plaisir aux conservateurs, c'est une union douanière transitoire. Que réclame la gauche, elle aussi, enfin le Labour, elle aussi, lui aussi, pour trouver des compromis à l'intérieur, c'est une union douanière, mais permanente. Donc il y en a une qui veut une union douanière transitoire, on lui reproche que ça pourrait être longtemps, et l'autre permanente. Voilà, c'était ça les données. Bon, à partir de là, il y a une seule solution qu'elle a fini par trouver. Ouais. C'est de faire appel à l'opposition, Labour, sortir transitoirement de ce modèle dissensuel pour arriver à l'idée qu'autour de l'union douanière, on puisse construire quelque chose. C'est le point auprès, elle est arrivée après avoir épuisé son propre camp. Donc, c'est pas si mal fait. Ouais. Le problème, c'est que ça a mis beaucoup de temps et que maintenant, on est rattrapé par des questions absurdes de calendrier qui font que, pour construire autour de cette proposition du nom douanière, il faut savoir si les Britanniques vont envoyer au Parlement des représentants 3 ans après. Avoir... Bon, c'est un peu du deuxième ordre, mais je pense qu'elle a fait un long chemin qui nous amène enfin pour le peuple britannique, pour le dire comme ça, à une
étape
solution
franchie,
à partir de laquelle on peut véritablement construire.
Voilà. Cette semaine, l'étape d'après, on s'en remettra au Parlement, Mathieu Laine, où il faut repasser par le référendum, parce que le mauvais génie est sorti de la lampe référendum, il faut donc qu'il y rentre par la même voie.
Très rapidement, plein d'indulgence pour Theresa May. Elle en arrive à un moment où, pour le coup, ça pourrait être, elle l'a dit il y a quelques heures, mon deal, où on reste dans l'Union européenne. Ça corroborerait d'ailleurs la stratégie de Macron qui est de dire on n'a qu'à pousser jusqu'au bout, là on pousse les derniers jours parce que c'est no deal où vous prenez ce deal et puis voilà. Pour le coup, on peut comprendre ceux qui ne croient pas au second référendum parce que même s'ils basculaient dans rester dans l'Union Européenne, ça créerait un pays fracturé, donc je l'entends ça. Hein. Mais il y a un moment ou un autre, si toutes ces hypothèses ne fonctionnent pas, il faudra bien repasser par le peuple.
Merci beaucoup à tous les quatre, Mathieu Hélène, Christine Ockrent, Bertrand Badier, Daniel Cohen, d'avoir été nos visiteurs du dimanche. On se retrouve dimanche prochain à l'Odéon, l'Esprit public en direct et en public du Théâtre de l'Odéon. Réservez d'ores et déjà vos places sur le site du théâtre et venez poser vos questions sur l'actualité politique et géopolitique de la semaine à Daniel Cohn-Bendit, Dominique Schnapper, Sylvie Kaufmann et Thierry Pêche. Merci à Marine Beccarelli qui a préparé avec moi cette émission, à Luc-Jean Reynaud qui l'a réalisée, à la technique aujourd'hui, Ludovic Auger. À la semaine prochaine, donc à l'Odéon. Bonne semaine à tous. Tout de suite, c'est Caroline Brouet.